Les Kessler vinrent dîner un soir. Ils firent le tour de l'appartement en silence, deux vieux bobos sur le cul. Un spectacle très jouissif en vérité. Franck n'était pas là, et Philibert fut exquis. Camille leur montra son atelier. Paulette s'y trouvait dans toutes les positions, toutes les techniques et tous les formats. Un temple à sa gaieté, à sa douceur, et au remords, et aux souvenirs qui lui fissuraient le visage quelquefois. Mathilde était troublée, et Pierre confiant.
« C'est bien ça !» Ah, c'est très bien. Avec la canicule de l'été dernier, le vieux est devenu très tendance, tu sais. Ah, ça va marcher, j'en suis sûr.
Camille était accablée. Accablée.
Laisse, c'est de la provocation. Il est ému, ce petit bonhomme.
C'était un samedi matin, il y a quelques semaines. Camille travaillait. Elle n'avait même pas entendu le carillon de la sonnette quand Philibert toqua à sa porte.
Camille ?
Oui ?
La reine de Saba est ici, dans mon salon.
Mamadou était magnifique. Elle avait mis son plus beau boubou et tous ses bijoux. Ses cheveux étaient épilés jusqu'aux deux tiers de son crâne et elle portait un petit fichu assorti à son pagne.
Je te l'avais dit que je viendrais. Mais il faut te dépêcher, hein, parce que je vais à un mariage dans ma famille à 4 heures. C'est là que tu habites alors? C'est là que tu travailles?
Je suis tellement contente de te revoir.
Allez, perds pas de temps, je te dis.
Camille l'installa bien confortablement.
Voilà. Tiens-toi droite.
Mais je me tiens toujours droite d'abord.
Je peux pas te dessiner si je ne sais pas comment tu t'appelles.
L'autre leva la tête et soutint son regard avec un dédain magnifique.
Je m'appelle Marie Anastasie Bamundela Baye.
À part ces deux visites, à part une sauterie où ils s'en rendirent tous les trois pour fêter les 30 ans d'un collègue de Franck, et où Camille se déchaîna en hurlant « J'ai plus d'appétit qu'un barracuda, barracuda !» il ne se passa rien d'extraordinaire. Les journées s'allongeaient, Philibert répétait, Camille travaillait et Franck perdait chaque jour un peu plus confiance en lui. Elle l'aimait bien, mais ne l'aimait pas. Elle s'offrait, mais ne se donnait pas. Elle essayait pourtant, mais n'y croyait pas. Un soir, il découcha. Pour voir, elle ne fit aucun commentaire. Puis un deuxième, puis un troisième, pour boire. Il dormait chez Kermadec, seul la plupart du temps, avec une fille, un soir de mort subite. Paulette ne marchait presque plus, et Camille évitait désormais de lui poser des questions. Elle la retenait autrement, dans la lumière du jour ou sous l'auréole des lampes. Certains jours, elle n'était pas là, et d'autres, elle pétait la forme. C'était épuisant. Où s'arrêtait le respect de l'autre et où commençait la notion de non-assistance à personne en danger? Cette question la taraudait, et à chaque fois qu'elle se relevait la nuit, bien décidée à prendre rendez-vous chez un médecin, la vieille dame se réveillait guillerette et fraîche comme une rose. Et Franck, qui ne parvenait plus à soutirer à l'une de ses anciennes conquêtes laborantines, ses médicaments sans ordonnance. Elle ne prenait plus rien depuis des semaines. Le soir du spectacle de Philibert, par exemple, elle n'était pas vaillante, et ils durent demander à Madame Pereira de lui tenir compagnie. La représentation avait lieu dans une MJC au fin fond de la ligne A du RER. Ils prirent le Zeus de 19h34, s'assirent l'un en face de l'autre et réglèrent leur compte en silence. Camille regardait Franck en souriant. « Garde-le, ton petit sourire de merde, j'en veux pas. C'est tout ce que tu sais donner, toi. Des petits sourires pour embrouiller les gens. Garde-le, va, garde-le. Tu finiras toute seule dans ton donjon avec tes crayons de couleur et ce sera bien fait pour ta gueule. Moi, je sens que je fatigue, là. Le ver de terre amoureux d'une étoile, ça va un moment. » Franck regardait Camille en serrant les dents.
« Que t'es mignon, toi, quand t'es en colère. Que t'es beau quand tu perds les pédales. Pourquoi j'arrive pas à me laisser aller avec toi ? Pourquoi je te fais souffrir ? Pourquoi je porte un corset sous ma cuirasse et deux cartouchières en bandoulière ? Pourquoi je bloque sur des détails débiles ? Prends un ouvre-boîte, merde. Regarde dans ta mallette, je suis sûre que t'as ce qu'il faut pour me laisser respirer. Franck l'estafier ?
Présent.
Quand tu dors pas avec moi, tu dors avec qui ? Tu leur fais les mêmes choses qu'à moi ?
Non.
Ils se donnèrent la main en remontant à la surface. La main, c'est bien. Ça n'engage pas trop celui qui la donne, et ça apaise beaucoup celui qui la reçoit. L'endroit était un peu tristoun. Camille et Franck prirent leurs billets et n'eurent que l'embarras du choix pour trouver une place. Peu à peu, la salle se remplit tout de même. Ambiance, kermesse et patronage. Les mamans s'étaient faites belles et les papas vérifiaient les piles de leur caméscope. Comme à chaque fois qu'il était énervé, Franck brandouillait du pied. Camille posa sa main sur son genou pour le calmer.
Savoir que mon filou va se retrouver tout seul en face de tous ces gens, ça me tue. Je crois que je vais pas supporter. Imagine qu'il a un trou de mémoire. Imagine qu'il se mette à bégayer. Il sera encore bon à ramasser la petite cuillère.
Chut, tout va bien se passer.
S'il y en a un seul qui ricane, je te jure, je lui saute dessus et je le bute.
Du calme.
Du calme, du calme, et j'aimerais bien t'y voir, toi. T'irais faire le mariole, là, devant tous ces inconnus.
D'abord, ce fut le tour des enfants. Camille n'arrivait pas à les dessiner, elle s'amusait trop. Ensuite, une grappe d'ados dégingandés en cours de réinsertion expérimentale vinrent rapper leur existentialisme en secouant de lourdes chaînes en plaqué or.
Yo man, mais qu'est-ce qu'ils ont sur la tête là ? Des collants ou quoi ?
Entracte. Quand l'obscurité revint, une fille insensée fit son apparition. Haute comme trois pommes, elle portait des Converse roses customisées New Look, des collants rayés multicolores, une mini-jupe en tulle vert et un petit blouson d'aviateur recouvert de perles. La couleur de ses cheveux était assortie à celle de ses chaussures. Une elfe. Une poignée de confettis. Le genre de fofolle émouvante que l'on aimait du premier coup d'œil ou que l'on ne comprendrait jamais. Camille se pencha et vit que Franck souriait bêtement.
Bonsoir. Alors, voilà. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'allais pouvoir vous présenter le numéro suivant. Et finalement... J'ai pensé que le mieux serait encore de vous raconter notre rencontre.
Oh, ça bégaye. C'est pour nous, ça.
Alors, c'était l'année dernière à peu près.
Elle agitait ses bras dans tous les sens.
Vous savez que j'anime des ateliers pour enfants à Beaubourg. Et je l'ai repéré parce qu'il était toujours en train de tourner autour de ses tourniquets pour compter et recompter ses cartes postales. À chaque fois que je passais, je m'arrangeais pour le surprendre et ça ratait pas. Il était en train de recompter ses cartes en gémissant, que... comme Chaplin, vous voyez ? Avec cette espèce de grâce qui vous prend à la gorge quand vous savez plus si vous devez rire ou pleurer, quand vous savez plus rien. Quand vous restez là, toute bête, avec le cœur en aigre doux. Donc un jour, je l'ai aidé. Et je l'ai bien aimé, quoi. Vous aussi, vous verrez. On ne peut pas ne pas l'aimer. Ce garçon, c'est toutes les lumières de la ville à lui tout seul.
Camille broyait la main de Franck.
Ah, encore une chose. Quand il s'est présenté la première fois, il m'a dit Philibert de la Durbellière. Alors moi, normal, poli, j'ai répondu pareil, géographiquement. Suzy, de Belleville. Ah, là, il s'est exclamé, mais vous êtes une descendante de Geoffroy de l'Agem de Belleville qui combattit les Habsbourg en 1672. Oula. Non, non, mais moi, j'ai bafouillé. Non, de Belleville, de Paris, quoi. Eh ben, vous savez le pire, hein. Il n'était même pas déçu. Alors voilà, tout est là, tout est dit. Je vous demande de l'applaudir très fort.
Elle sautillait. Franck siffla entre ses doigts. Philibert entra pesamment, en armure, avec la cotte de maille, l'aigrette au vent, la grande épée, le bouclier et toute la quincaille. Frisson dans l'assistance. Il se mit à parler, mais on ne comprenait rien. Au bout de quelques minutes, un gamin s'est approché avec un tabouret pour lui soulever sa visière. L'autre, imperturbable, devint enfin audible. Esquisse de sourire. On ne savait pas encore si c'était du lard ou du cochon. Philibert commença alors un striptease génial. À chaque fois qu'il retirait un morceau de ferraille, son petit page le nommait bien fort. Le casque, le bassinet, le gorgerin, le coltin, le plastron, la pansière, les cubitières, le gantelet, les cuissards, les genouillères, les jambières. Complètement désossé, notre chevalier finit par s'affaisser et le gosse lui retira ses chaussures. « Les solerets, » annonça-t-il, enfin, en les soulevant au-dessus de sa tête et en se bouchant le nez. Vrai rire cette fois. Rien ne vaut un bon gros gag pour chauffer une salle. Pendant ce temps, Philibert, Jehan, Louis-Marie, Georges, Marquet de la Durbellière détaillaient d'une voix monocorde et blasée les branches de son arbre généalogique en énumérant les faits d'armes de sa prestigieuse lignée. Son papy Charles contre les Turcs avec Saint-Louis en 1271, son pépé Bertrand dans les Choux à Azincourt en 1415, son tonton Bidule à la bataille de Fontenoy, son pépé Louis sur les berges de la Moine à Cholet, son grand-oncle Maximilien aux côtés de Napoléon, son arrière-grand-père sur le chemin des Dames et son grand-père maternel, prisonnier des Boches, en Poméranie. Avec moult et moult détails, les gosses ne pipaient pas mot. L'histoire de France en 3D, du grand art.
Et la dernière feuille de l'arbre, la voilà.
Il se releva, tout blanc et tout maigrelet, seulement vêtu d'un caleçon imprimé de fleurs de lys.
C'est moi, vous savez ? Celui qui compte ses cartes postales.
Son page lui apporta une capote militaire.
Pourquoi ? Pourquoi diantre, le dauphin d'un tel convoi compte et recompte des bouts de papier dans un lieu qu'il aborde ? Eh bien, je vais vous le dire.
Et là, le vent tourna. Il raconta sa naissance cafouilleuse parce qu'il se présentait mal.
Déjà,
soupira-t-il, et que sa mère refusait d'aller dans un hôpital où l'on pratiquait des avortements. Il raconta son enfance coupée du monde, pendant laquelle on lui apprenait à garder ses distances d'avec le petit peuple. Il raconta ses années de pensionnat avec son gaffio comme fer de lance, et les innombrables mesquineries dont il fut la victime, lui qui ne connaissait des rapports de force que les mouvements lents de ses soldats de plomb. Et les gens riaient. Oui, les gens riaient, parce qu'il en riait, lui, et qu'on était avec lui désormais. Tous des princes, tous derrière son panache blanc, tous émus. Il raconta ses tocs, troubles obsessionnels compulsifs, son lexo, ses feuilles de sécu où son nom ne tenait jamais, ses bégaiements, ses cafouillages, quand sa langue s'embourbait dans son trouble, ses crises d'angoisse dans les lieux publics, ses dents dévitalisées, son crâne dégarni, son dos un peu voûté déjà, et tout ce qu'il avait perdu en cours de route pour être né sous un autre siècle. Élevé sans télévision, sans journaux, sans sortie, sans humour et surtout, sans la moindre bienveillance pour le monde qui l'entourait. Il donna des cours de maintien, des règles de savoir-vivre, rappela les bonnes manières et autres usages du monde en récitant par cœur le manuel de sa grand-mère.
Les personnes généreuses et délicates ne se servent jamais, en présence d'un domestique, d'une comparaison qui peut être injurieuse pour lui. Par exemple, un tel se conduit comme un laquais. Les grandes dames d'autrefois ne se piquaient pas d'une telle sensibilité. Allez-vous dire, et je sais en effet qu'une duchesse du XVIIIe siècle avait coutume d'envoyer ses gens en place de grève à chaque exécution en leur disant crûment « allez à l'école ». Nous ménageons mieux aujourd'hui la dignité humaine et la juste susceptibilité des petits et des humbles, c'est l'honneur de notre temps. Mais tout de même, la politesse des maîtres envers les serviteurs ne doit pas dégénérer en familiarité basse. Par exemple, rien n'est aussi vulgaire que d'écouter les cancans de ces gens.
Et l'on souriait encore, même si cela ne nous faisait pas rire. Enfin, il parla le grec ancien, récita des prières en latin à tire-larigot, et avoua qu'il n'avait jamais vu la grande vadrouille, car l'on s'y moquait des religieuses.
« Je crois que je suis le seul Français qui n'ait pas vu la grande vadrouille, non ?»
Des voix gentilles le rassuraient. « Non, non, t'es pas le seul. »«
Heureusement, je vais mieux. J'ai descendu le pont-levis, je crois. J'ai quitté mes terres pour aimer la vie. J'ai rencontré des gens beaucoup plus nobles que moi. Certains sont dans cette salle et je ne voudrais pas les mettre mal à l'aise, mais... »
Comme il les regardait, Tous se retournèrent vers Franck et Camille, qui essayaient désespérément de ravaler la boule qu'ils avaient dans la gorge. Parce que ce type qui parlait, là, ce grand échalas qui les faisait tous marrer en racontant ses misères, c'était leur filou à eux, leur ange gardien, leur super Nesquik venu du ciel. Celui qui les avait sauvés en refermant ses grands bras maigrichons sur leur dos découragé. Pendant que les gens l'applaudissaient, il finissait de se rhabiller. Il était désormais en queue de pied et chapeau claque.
Eh bien voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère ne pas vous avoir trop importuné avec ces breloques poussiéreuses. Si c'était le cas, hélas, je vous prie de m'excuser et de présenter vos doléances à cette demoiselle loyale en cheveux roses, car c'est elle qui m'a forcé à me tenir devant vous ce soir. Je vous promets que je ne recommencerai pas, mais...
Il agita sa canne en direction des coulisses et son page revint avec une paire de gants et un bouquet de fleurs.
« Notez la couleur !»
ajouta-t-il en les enfilant.
« Beurre frais ! Mon Dieu, je suis d'un classicisme indécrottable. Où en étais-je ? Ah oui, les cheveux roses. Je sais que monsieur et madame Martin, les parents de mademoiselle de Belleville, sont dans la salle et je... »
Il s'agenouilla.
« Je bégaye, n'est-ce pas ?»
Rire.
« Je bégaye et c'est bien normal pour une fois. » puisque je viens vous demander la main de votre fille.
À ce moment-là, un boulet de canon traversa la scène et vint le faire trébucher. Son visage disparut alors sous une corolle de tulle et l'on entendit
« Je vais être marquise !»
Les lunettes de travers, il se releva en la portant dans ses bras.
« Fameuse conquête, vous ne trouvez pas ?»
Il souriait.
« Mes ancêtres peuvent être fiers de moi. »